Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, bombardement de l'armée hier dans le Tibesti.
Au Mali, les élections législatives ont été repoussées d'un mois.
Au Niger, des télévisions émettent de nouveau après leur fermeture en juillet.
En Côte d'Ivoire, les patrons de presse appellent à une manifestation presse morte lundi.
Ici aux États-Unis, l'ouragan Florence déferle sur la côte Est et menace de provoquer des inondations catastrophiques.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, l'armée a bombardé hier matin la localité de Kouribougoudi dans la région du Tibesti, dans l'extrême nord du pays, où une opération militaire est en cours depuis fin août pour nettoyer la zone. Nani Talani nous en dit plus.
Selon une source sécuritaire à N'Djamena, deux hélicoptères ont bombardé Kouribougoudi où des orpailleurs refusent d'évacuer les lieux malgré l'injonction du gouvernement. Le bombardement n'a visé que des civils. Il y a des victimes civiles innocentes, a déclaré un parlementaire de la région sous couvert de l'anonymat. Un orpailleur de la zone évoque quatre blessés qui sont en train d'être acheminés vers la Libye pour y être soignés. Le porte-parole de l'armée a déclaré ne pas être informé. Fin août, le Tchad avait lancé une opération militaire dans le Tibesti pour officiellement nettoyer la zone des milliers d'orpailleurs venus du Soudan et du Niger voisin, ainsi que d'autres régions du Tchad, créant des tensions parfois meurtrières. Cette région du Tchad est présumée être riche en métaux précieux. On y trouve aussi plusieurs groupes rebelles tchadiens.
Deux Français d'une cinquantaine d'années soupçonnés d'avoir projeté l'assassinat d'un opposant originaire du Congo-Brazzaville ont été inculpés à Lyon en France. Selon l'AFP, un troisième homme, né en 1962, a été lui placé sous le statut de témoin assisté. L'identité de l'opposant visé et qui serait domicilié en région parisienne n'a pas été divulguée, pas plus que le mode opératoire des auteurs présumés du complot. Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire.
Au Mali, les élections législatives ont été repoussées d'un mois et se dérouleront les 25 novembre et 16 décembre, a annoncé jeudi le gouvernement. Ces élections devaient avoir lieu initialement le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second, soit exactement trois mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. De Bamako, des détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les premières dates communiquées pour les législatives de 2018 étaient intenables à cause de la grève illimitée des magistrats. C'est pour cela que le ministre a initié cette rencontre. Mohamed Ag Erlaf, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Les élections doivent se tenir avant le 31 décembre pour permettre à tous les candidats de bénéficier d'un certificat de nationalité surtout et d'un casier judiciaire en espérant que la grève des magistrats sera levée pour donner aux citoyens les casiers judiciaires.
Le collège électoral sera convoqué pour le 14 septembre. Le 11 octobre est la date de clôture des dépôts de candidature. La campagne sera ouverte le 2 novembre et close le 23 du même mois. Le premier tour se tiendra le 25 novembre et le second tour est prévu pour le 16 décembre. Certains partis politiques sont d'accord avec ce chronogramme.
Je crois que c'est ça les éléments essentiels. Pour tout le reste, il s'agit de dérouler des éléments du chronogramme.
Alors si on fait comprendre qu'il y a d'autres moyens hormis la grève des magistrats, allez, ils vont les mettre à notre disposition. On va voir ce que cela aussi va donner.
Ne disposant pas de liste communale, le ministre Ag Erlaf a fait savoir que les régions nouvellement créées ne sont pas concernées par ce chronogramme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, la télévision Labari a repris ses émissions jeudi après-midi après 46 jours de fermeture. Elle faisait partie de cette radio-télévision privée fermée en juillet par le fisc qui leur réclamait des arriérés d'impôts. Timothée Donagmaï a joint à Niamey Ali Idrissa, promoteur du groupe de presse Labari.
Le déblocage est intervenu quand nous avions écrit un courrier à la Direction générale des impôts pour leur dire que nous souhaitions qu'il y ait un traitement équitable. C'est-à-dire que là-bas, ils puissent aussi bénéficier des mêmes circonstances que les autres médias. Certains dont la fermeture n'a duré que quelques heures, d'autres quelques jours. Nous, on est parti jusqu'à 46 jours. Effectivement, la Direction générale des impôts a accédé à notre requête en acceptant que nous puissions être dans la situation de pouvoir commencer un premier versement et prendre des engagements mensuels de paiement, mais tout en se disant que nous sommes dans un contentieux fiscal qui prendra son bout de temps et qu'au finish, nous serions amenés à savoir exactement qu'est-ce que nous devions payer.
Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, une manifestation presse morte est prévue lundi prochain pour protester contre la suppression d'une subvention publique de 800 millions de francs CFA. C'est ce qu'ont annoncé hier à Abidjan des patrons de presse réunis au sein du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Ils ont par ailleurs menacé de boycotter éventuellement les activités du gouvernement.
Concernant toujours la presse, l'ONG congolaise Journaliste en danger a appelé hier à la libération d'un confrère emprisonné depuis une semaine à Kinshasa, après sa condamnation par défaut pour imputation dommageable à l'endroit d'un dirigeant sportif congolais. Tarsis Zongia, directeur du journal satirique Le Grognon, a été arrêté par des policiers le 6 septembre dans les locaux d'un tribunal de Kinshasa, alors qu'il était convoqué pour comparaître à la suite d'une deuxième plainte portée contre lui par M. Barthélémy Okito, secrétaire général au ministère congolais des Sports et Loisirs, écrit l'association Journaliste en danger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, la côte atlantique se prépare ce vendredi à subir de plein fouet l'impact de l'ouragan Florence qui, avec des pluies diluviennes poussées par des vents violents, menace de provoquer des inondations catastrophiques. L'ouragan reste dangereux même s'il a été rétrogradé en catégorie 1 sur l'échelle Saffir-Simpson qui en compte 5, a averti le Centre national des ouragans. Avec des vents calculés à 150 km/h à des niveaux très proches de la deuxième catégorie, l'œil du cyclone se trouvait à 95 km de Wilmington, en Caroline du Nord, à 23h heure locale, 3h temps universel, selon l'Institut.
Le président américain Donald Trump a fait l'objet de nouvelles et vives critiques pour avoir mis en doute le bilan officiel de près de 3000 morts à Porto Rico lié à l'ouragan Maria il y a un an. Sans fournir de preuves pour étayer ses affirmations, M. Trump a accusé ses adversaires démocrates de gonfler les chiffres afin de donner de lui, et je cite, « une image aussi mauvaise que possible ». Selon lui, 3000 personnes ne sont pas mortes dans les deux ouragans Maria et Irma qui ont dévasté l'île.
États-Unis toujours, l'homme le plus riche du monde, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, va voler au secours des plus démunis. Il entend favoriser l'accès au logement et à l'éducation pour les familles sans abri et les communautés défavorisées. Des détails avec Bagassi Koura.
Bezos, qui pèse 160 milliards de dollars, a annoncé hier jeudi le lancement d'un fonds doté de 2 milliards de dollars pour l'instant. Le Bezos Day One Fund, créé avec sa femme Mackenzie, va financer des organisations caritatives déjà établies qui aident les familles sans-abri à trouver un logement et va financer un nouveau réseau de crèches à but non lucratif dans des communautés défavorisées, a expliqué le milliardaire sur Twitter. Cette annonce est intervenue un an après qu'il a lancé un appel aux idées sur la façon dont il pourrait utiliser sa fortune. L'argent sera versé aux organisations et sites qui font un travail humanitaire minutieux pour nourrir et donner un toit aux jeunes familles sans abri, a expliqué le fondateur d'Amazon. Il servira également à lancer un réseau d'écoles de haute qualité pour élèves boursiers.
Les deux Corées ont ouvert aujourd'hui un bureau de liaison conjoint dans la localité nord-coréenne de Kaesong, nouveau signe de rapprochement en amont de la visite de la semaine prochaine à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in. Un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre ici aujourd'hui, a déclaré le ministre sud-coréen de l'Unification lors de la cérémonie d'ouverture, selon des informations fournies par un pool de journalistes. Le chef de la délégation de la Corée du Nord, doté de l'arme nucléaire, a renchéri, qualifiant le bureau de liaison de fruits substantiels nourris par le peuple du Nord et du Sud.
Au Nicaragua, des milliers de personnes ont manifesté hier dans la capitale, Managua, pour exiger encore le départ du président Daniel Ortega, cible de protestations sociales depuis plusieurs mois. Monsieur Ortega, ancien guérillero de 72 ans et depuis 11 ans au pouvoir, il est accusé par ses opposants d'avoir mis en place une dictature marquée par la corruption et le népotisme avec son épouse et vice-présidente Rosario Murillo.
Zéro carbone, zéro voiture à essence, zéro déchet. De nombreuses villes représentées au sommet climat de San Francisco visent désormais une suppression totale des gaz à effet de serre en quelques décennies, un objectif encore utopique il y a quelques années. L'Europe, l'Asie, les Amériques, l'Afrique et l'Océanie sont représentées au sommet mondial pour l'action climatique qui a commencé mercredi et rassemble le plus grand nombre de maires, gouverneurs et responsables territoriaux jamais vus sur le thème du climat.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a attribué à la société sénégalaise Invol Immobilier la construction de l'université de San Pedro dans le sud-ouest pour environ 95 milliards de francs CFA. Cette université ouvrira ses portes en octobre 2020 pour accueillir 20 000 étudiants dans les filières de construction navale, d'agriculture et de tourisme. 8 entreprises et consortiums chinois et européens convoitent un projet de construction d'une autoroute à 4 voies en Ouganda. Elle doit relier Kampala et la ville de Jinja dans le sud-est à proximité du lac Victoria. Elle permettra de réduire le temps de trajet à 70 minutes au lieu d'environ 2h30 actuellement. Le coût du projet est estimé à 1,1 milliard de dollars. Le gouvernement ougandais a déjà mobilisé 400 millions de dollars. L'entreprise ou le consortium retenu devra mobiliser le reste du financement. Environ 1500 emplois seront créés pendant la construction et 250 emplois après la construction. La Banque mondiale veut financer des projets de développement dans la péninsule défavorisée du Sinaï pour 1 milliard de dollars. Le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, les femmes entrepreneurs et les infrastructures seront prioritaires. Le Fonds de développement saoudien a donné 2,5 milliards de dollars à l'Égypte pour créer des emplois, construire des routes, des usines de dessalement, des unités résidentielles et des réseaux intégrés pour relier le Sinaï à d'autres gouvernorats.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les quarts de finale de la Ligue africaine des champions.
Ah oui, un derby algéro-marocain qui voit s'affronter l'Entente sportive de Sétif, championne d'Afrique en 2015, face au tenant du titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca, le WAC. Ce dernier, depuis deux saisons, est invaincu à domicile en Ligue des champions. Il jouera le deuxième match à domicile. Aux Algériens de faire la différence au match aller. L'autre quart de finale se joue bien évidemment entre le club guinéen d'Oroya et le multiple champion d'Afrique, les Égyptiens d'Al Ahly. Ces derniers, depuis l'an 2000, ont remporté 6 couronnes continentales, une coupe de la Confédération.
Soupçon de corruption dans le football rwandais.
La polémique enfle suite à l'ouverture d'une enquête concernant deux dirigeants de la Fédération rwandaise de football. L'arbitre namibien Jackson Pavaza affirme avoir été approché pour manipuler le résultat du match entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Cette rencontre avait été remportée à Kigali 2-1 par les éléphants. Ces allégations de corruption font actuellement l'objet d'une enquête au Rwanda.
La FIFA veut du changement dans le marché des transferts.
Oui, la FIFA prévoit de limiter entre 6 et 8 le nombre de joueurs qu'un club peut prêter chaque saison. Cette mesure vise à garantir l'équité sportive entre les clubs et surtout à endiguer un phénomène qui voyait des clubs, notamment anglais et italiens, engager un grand nombre de joueurs et à les prêter aussitôt. L'autre proposition, c'est la création d'une chambre de compensation gérée par une banque chargée de collecter et de reverser aux clubs formateurs les indemnités de formation prélevées sur chaque transfert.
Cyclisme au Côte d'Ivoire.
L'Ivoirien Issiaka Cissé est arrivé en tête de la 5e étape du Tour de Côte d'Ivoire hier à Bandoukou. Comme lors de la 4e étape, il a devancé le Burkinabé Abdulaziz Nikema. Le Ghanéen Anthony Boakai complète le podium. C'est la 3e victoire de suite pour Cissé qui conserve ses 2 minutes et 31 secondes d'avance sur le Camerounais Clovis Kamzong Abesolo au classement général.
Et qui organisera les JO d'hiver 2026 ?
Après Pékin en 2022, quelle ville va accueillir ces Jeux Olympiques d'hiver 2026 ? La réponse ne sera connue qu'en septembre prochain, mais dans un mois, les 5 projets encore en lice passeront un premier test devant le Comité international olympique. Calgary au Canada, Erzurum en Turquie, Sapporo au Japon, Stockholm en Suède et enfin un trio italien, Milan, Turin et Cortina d'Ampezzo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Cameroun se prépare à l'élection présidentielle d'octobre sur fond de tensions dans les régions anglophones du pays. Les combats sont devenus pratiquement quotidiens entre les forces de sécurité et des séparatistes anglophones armés qui se réclament d'un État indépendant, l'Ambazonie. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé que l'élection présidentielle du 7 octobre n'aurait pas lieu en zone anglophone, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour en parler, John Lyndon s'est entretenu avec Cabral Libby, le plus jeune des 9 candidats engagés dans cette élection présidentielle au Cameroun.
C'est clair que dans certaines zones de la partie anglophone du Cameroun, il ne sera pas possible d'organiser des élections, même dans l'hypothèse où la guerre, puisqu'il s'agit bien d'une guerre, j'ai pu le vivre par moi-même parce que je me suis rendu à Batibo, qui est une localité de cette zone-là. Même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, ce serait difficile parce que les dégâts sont tels qu'on ne pourrait pas les rattraper d'ici le 7 octobre. Néanmoins, il faut y aller parce que la solution passe par là. Je suis de ceux qui pensent, et avec beaucoup de Camerounais, que 40% de la solution à la crise anglophone, c'est le changement du président de la République. Ce serait une chose. Une fois donc que moi je serai élu, la première chose que je ferai, c'est que j'irai dialoguer avec mes compatriotes anglophones parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Ce qui a exacerbé cette crise, c'est le mépris et la condescendance. Deuxième chose, je reformerai la forme de l'État. Je mettrai donc en place un État régional, ce qu'on appelle le régionalisme, qui est en fait à mi-chemin entre l'État unitaire et l'État fédéral parce que nous pensons au parti univers qu'on peut arriver aux mêmes objectifs que le fédéralisme en passant par le régionalisme. Et puis troisième chose, nous sortirions le Cameroun de la captivité francophone anglophone dans laquelle nous sommes depuis 1916 en érigeant les langues nationales au rang de langue officielle.
Un plan donc chargé alors. Mais pour cela, il faudrait déjà gagner cette élection. Mais l'opposition va justement à cette élection en rang dispersé. On s'attendait à une candidature unique de l'opposition, surtout pour une élection à un tour. Comment envisagez-vous les choses ?
Il faut rappeler qu'en 1992, un candidat avait gagné l'élection présidentielle à un tour au Cameroun. Certes, il n'a pas pu le prouver, mais il y avait 13 candidats à l'époque. Maintenant, il y en a 9 dont les chances de victoire pour un des candidats de l'opposition, de notre point de vue, sont intactes. Ça, c'est de mais il est clair que si les opposants se mettent ensemble, ça accroît les chances de victoire. C'est ce à quoi nous travaillons effectivement. En ce qui me concerne, j'ai adressé une correspondance à tous les autres opposants, leur suggérant que nous nous retrouvions en conclave et que nous arrêtions des critères de choix objectifs d'un des candidats qui dirigerait dans la coalition et qui gagnerait, gouvernerait le Cameroun et au bout de 5 ans organiserait des élections auxquelles il n'est pas candidat. En attendant, nous suggérons également que nous nous retrouvions afin de mettre en place une équipe collective des représentants dans les bureaux de vote. Il y en a plus de 20 000. La dernière fois même 20 3000. J'affirme aujourd'hui, fort de ce que j'ai pu ressentir sur le terrain, j'ai fait 2,5 fois le tour du Cameroun, le président sortant ne peut pas gagner. Il s'est taillé un code électoral sur mesure, il ne peut pas vouloir d'élection à 2 tours parce qu'il sait que ça lui serait fatal. Il compte sur une élection à 1 tour pour construire, comme ils en ont l'habitude, leur fraude. Donc, si nous avons des représentants, nous, de l'opposition, dans chaque bureau de vote au Cameroun, le même soir, nous pourrions publier les résultats parce que la loi oblige les présidents du bureau de vote à faire des PV et les mettre à disposition des représentants des candidats.
Vous êtes jeune et le chômage est un fléau en ce moment au Cameroun. Cabral Libby, président, qu'allez-vous faire pour les jeunes en quelques secondes ?
On revient constamment sur ma jeunesse, c'est vrai, j'ai 38 ans, mais je rappelle toujours que le tout premier président du Cameroun est arrivé à cette fonction en 1960 à 36 ans, donc de 2 ans mon cadet. Donc je n'invente pas, je ne suis pas quelque chose d'étrange dans le champ politique. Mais effectivement, on parle beaucoup de chômage, mais on ne parle pas de sous-emploi. Le sous-emploi en réalité qui maintient les Camerounais dans la misère sous une apparence d'employabilité. Donc on va régler la question d'abord du sous-emploi par le relèvement du pouvoir d'achat en réformant le SMIC qui se sera d'être interprofessionnel pour devenir intraprofessionnel, c'est-à-dire un SMIC pour chaque corps de métier. Puis, par l'agro-industrie, la construction et les investissements, nous l'avons démontré, nous créons en 5 ans 3,5 millions d'emplois.
C'était Cabral Libi, candidat à la présidentielle au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, nous vous le disions hier, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des affrontements mercredi entre 2 groupes d'autodéfense rivaux dans le département de Karangasso-Vigué, au sud de Bobo-Dioulasso. Au lendemain de ces incidents, le correspondant de VOA Afrique, Alidou Ouedraogo, qui s'est rendu sur place, nous signale un retour au calme suite à plusieurs médiations. Son reportage.
Karangasso, Vigué et Kouredougou, 2 localités au sud de Bobo-Dioulasso, étaient comme des zones mortes au lendemain de l'affrontement entre Dozo et Kouredougou, 2 groupes d'autodéfense rivaux. Cet affrontement a fait 3 morts, 1 Dozo et 2 Kouredougou. Assis sur une chaise en plastique devant sa porte, le chef du village de Kouredougou, qui est témoin de l'affrontement, explique. Salia Ouattara.
Le chef de canton m'a instruit de démanteler le QG de ces Kouredougou. Pour cela, il m'a adjoint des Dozo et son représentant. Il m'a dit d'aller prévenir d'abord le grand marabout du village et de l'informer. Là-bas, les Kouredougou ont estimé qu'on venait les provoquer parce que pour venir informer quelqu'un, on n'a pas besoin de venir avec un fusil. C'est là que ça a dégénéré.
Sans voix devant ces faits, le chef des Kouredougou annonce la fin de ce groupe d'autodéfense fortement décrié à l'ouest.
C'est fini. Nous allons laisser tomber cette histoire de Kouredougou. Le quartier général ne sera plus restauré. Il y a eu des pertes en vies humaines. Pourquoi devons-nous continuer? Ils ont dit que ça ne se fait pas chez eux. On va respecter leur choix. Il faut qu'on s'entende, qu'on se comprenne pour une vie harmonieuse avec ceux qui nous ont reçus chez eux.
Venus de partout le Grand Ouest à Karangasso-Vigué, les Dozo faisaient craindre le pire. Mais à la surprise générale, le président de l'Union nationale des Dozo va placer l'intérêt national au-delà de toute considération. Ali Konaté.
Nous avons demandé de promettre ce pardon, de promettre la recherche de cette paix, parce que le Burkina en a besoin aujourd'hui. Nous devons en tout cas lutter d'abord pour chercher à manger. Nous ne devons pas nous entretuer pour des choses qui n'ont pas de sens pour nous, qui n'ont pas de sens.
Il invite l'autorité à jouer son rôle.
Nous demandons aux autorités de regarder comment est-ce qu'ils peuvent encore mettre tout en œuvre pour réinstaurer davantage cette paix, cette cohésion.
Enfin, le président de l'Union nationale des Dozo invite ses Kouredougou à intégrer la confrérie Dozo, qui est le groupe d'autodéfense traditionnel de la région et accepté de tous.
La confrérie est ouverte à tout le monde, sans distinction de religion, d'ethnie, de race, surtout pour ceux qui cherchent principalement la paix. Nous disons que vraiment, ils sont les bienvenus. Nous n'attendons que ça.
Un rappel en février dernier, devant le refus des populations et des Dozo de voir ces groupes d'autodéfense Kouredougou s'implanter dans cette partie du Burkina, le haut commissaire de la province du Houé avait annoncé leur dissolution et le démantèlement de leurs quartiers généraux, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce drame. Alidou Ouedraogo, de retour de Karangasso-Vigué, Kouredougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Mauritanie, l'esclavage est officiellement aboli depuis 1980, mais des cas liés au sujet sont souvent traités par les tribunaux grâce à l'appui d'ONG anti-esclavage. Des abolitionnistes comme Biram Ouldda sont souvent emprisonnés pour leur militantisme. Et l'un de ces militants, Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage en Mauritanie, séjourne ici aux États-Unis pour rencontrer ses partenaires et des organisations des droits humains. La communauté internationale s'intéresse-t-elle vraiment à l'esclavage en Mauritanie? Abdelrahman Dia a posé la question à Boubacar Messaoud.
Il est très clair pour nous, en tout cas, que si la communauté internationale ne s'y intéressait pas, tous les gouvernements mauritaniens qui se sont succédés n'auraient jamais accepté de faire les concessions qui ne sont encore que très modestes qu'ils ont déjà faites.
Vous dites que les concessions du gouvernement mauritanien sont modestes, mais le gouvernement dit que l'esclavage est aboli. Et quelle est un peu la situation?
Oui, le gouvernement nie que l'esclavage existe. Le gouvernement soutient et défend partout qu'il n'y a que des séquelles. Alors que nous présentons périodiquement des victimes d'esclavage que nous assistons au niveau des tribunaux contre leurs maîtres, les gens qui les exploitaient, avec leurs clamants, le retour de leurs enfants ou de leurs mères ou de leurs descendants qui sont restés encore chez les maîtres dans la campagne. C'est dur depuis que l'abolition a été déclarée en 1981. Et je me demande comment on peut déclarer en 1981 que l'esclavage est aboli sur toute l'étendue du territoire et en même temps dire qu'il n'existe pas.
Donc dans les textes, l'esclavage n'existe plus, mais dans la pratique, c'est autre chose.
Mais dans la pratique, c'est autre chose. Certes, l'esclavage n'est pas comme il était il y a 100 ans ou il y a 50 ans avant l'indépendance, mais il ne peut pas continuer à disparaître, à s'effacer au rythme du temps, tout simplement, parce que c'est très long. Actuellement, il en reste des esclaves. Nous continuons à déplorer qu'il n'y ait pas des mesures radicales permettant à tout un chacun de savoir que l'esclavage est totalement proscrit.
Quand vous parlez de mesures radicales, vous pensez à des peines sévères contre les auteurs?
Je parle des peines sévères d'abord, qu'il faut exécuter aussi. Je parle des sommes qu'on devrait exiger pour la réparation. Donc, je parle des réparations que les maîtres d'esclaves devraient être obligés de réparer parce que nous avons des esclaves qui n'ont absolument rien, qui sont totalement démunis. Surtout quand ce sont des esclaves qui étaient des bergers, qui étaient à la nature avec des animaux et leurs maîtres. Ils avaient juste un endroit pour dormir. Et quand ils viennent dans la ville, ils s'installent dans les bidonvilles et ils n'ont pratiquement pas grand-chose.
C'était Boubacar Messaoud, président de SOS Esclaves en Mauritanie. Le Zimbabwe fait face à une épidémie de choléra qui s'est propagée de la capitale Harare à plusieurs régions du pays, une situation d'autant plus préoccupante que le pays est confronté à une pénurie de médicaments. Pour davantage de détails, Arzuma Compaoré.
Selon le rapport conjoint du ministère zimbabwéen de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé, un total de 24 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie de choléra, dont 23 à Harare et 1 dans un district de Masvingo, ce qui a contraint les autorités à décréter l'état d'urgence sanitaire. Obadiah Moyo, ministre de la Santé du Zimbabwe.
Les chiffres augmentent chaque jour et à ce jour, il y a environ 2000 cas. Plus de 2000 cas, et c'est un nombre assez important.
Sharon Chimomboya, mère de malade du choléra.
Je suis venue ici après avoir reçu un appel disant que mon fils avait été hospitalisé. C'est tellement douloureux de perdre tant de gens, et nous avons du mal à les pleurer vu les circonstances.
Austin Mabika, malade du choléra.
J'ai la diarrhée et des vomissements. J'ai très mal à la tête et je saigne aussi.
Dans un tweet mercredi, le président Emmerson Mnangagwa a exprimé son soutien moral et ses prières aux personnes touchées par l'épidémie. Il a également assuré la population du travail sans relâche des autorités pour contrôler la situation. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a lui visité mercredi un centre médical de la capitale et appelé à l'aide internationale. Mais son parti, le MDC, dénonce l'interdiction des rassemblements publics à Harare, pointant une excuse pour interdire le rassemblement du parti samedi pour l'investiture symbolique de son chef comme président légitime du pays. En 2008, au moins 4000 personnes étaient mortes du choléra au Zimbabwe. L'épidémie avait éclaté en pleine crise économique qui avait forcé de nombreux hôpitaux à fermer faute de médicaments et de membres du personnel partis à l'étranger. Choléra et typhoïde sont causés par une bactérie qui se transmet lors de l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Au pouvoir depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, M. Mnangagwa a promis de relancer l'économie en crise du Zimbabwe et d'en faire un pays à revenus intermédiaires d'ici 2030.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du diabète. Il s'agit d'une maladie chronique qui apparaît lorsque l'organisme ne produit pas ou n'utilise pas suffisamment de l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Pour en parler, nous recevrons le docteur Awambo Kan. Elle est diabétologue au Sénégal. Elle nous dira comment faire pour combattre la maladie. Nous écouterons aussi le témoignage d'un malade ainsi que du docteur Frédéric Sabiyumba, directeur d'un centre de lutte contre le diabète au Burundi. Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.